Eh bien, bonjour, merci d'être là, si nombreux, c'est chouette. On va pouvoir parler d'Alan Turing pendant une heure ensemble avec nos deux invités. Tout d'abord, Sylvie Lainé. Alors, Sylvie Lainé, vous connaissez sans doute, si vous ne connaissez pas encore, c'est mal, son travail d'écrivain. Elle a sorti plusieurs recueils de fabuleuses nouvelles et notamment son nouveau qui vient de sortir, qui s'appelle « Fidèle à ton pas balancé ». Voilà. Un gros volume tout joli. Et puis elle a aussi commis dans cette anthologie-là un texte sur Alan Turing, une lettre, des lettres. Elle va pouvoir nous en parler pour qu'est-ce qui l'intéresse chez Alan Turing au point d'avoir envie de lui écrire un petit peu. Hein, on pourra en discuter. Et puis on est accompagné également de Denis Van Verbeek, j'ai bien dit ? Van Verbeek. Très bien, pourtant on s'est calé juste avant. Denis Van Verbeek, réalisateur notamment de documentaires, hein, mais il a fait beaucoup de choses. Et il y a un documentaire qui s'appelle La drôle de guerre d'Alan Turing, qui a eu un prix, hein, justement, qui a eu plusieurs prix, et qui se concentre donc sur Alan Turing au moment de la Seconde Guerre mondiale et au moment du code, du fameux code Enigma, quoi. Alan Turing, vous le connaissez tous, hein, on dit que c'est le père de l'ordinateur, c'est quelqu'un qui est né en 1912 à Londres, qui est décédé en 1954, notamment suite à une affaire un peu particulière, et on dit, mais on va pouvoir en discuter ensemble, que sur la Seconde Guerre mondiale, il a permis de l'abréger, enfin en tout cas de gagner presque 2 ans sur la victoire avec les nazis. Nixon Alan Turing, la défaite des nazis aurait sans doute pris un peu plus de temps que prévu, puisqu'il a permis de casser le code secret qu'utilisaient les nazis à ce moment-là. Peut-être une première question pour vous, Denis. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Alan Turing au point justement de vouloir en faire un documentaire, hein ?
Alors, c'est une bonne question. Ce qui m'a intéressé, je pense, c'est que Turing, c'est vraiment quelqu'un... Moi, j'ai fait beaucoup de films de science, en fait. Et Turing, c'est vraiment un scientifique. Ouais. On n'entend pas ?
En fait, nous, on est derrière. Alors, si vous ne nous entendez pas, vous levez la main parce qu'on n'a pas le retour.
Oui, et donc...
Là-bas, ils n'entendent pas du tout.
Donc, je dis...
Alors, plus près du micro, allez-y.
D'accord. Là, comme ça va mieux ?
Ouais.
Donc, oui. Donc, ce qui m'a intéressé, moi, c'est que, d'une part... Turing, c'est vraiment un scientifique qui est important dans le XXe siècle parce qu'encore une fois, vraiment, ses idées ont été à la base du développement de l'informatique, non pas parce que tant par un développement technologique qu'il aurait fait lui-même, mais vraiment sur un plan théorique. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui a posé le cadre conceptuel dans lequel s'est inscrit toute l'histoire de l'informatique. Et en même temps, c'est un personnage incroyablement romanesque avec une histoire quand même très très particulière. C'est-à-dire que c'est vraiment un scientifique, c'est vraiment un espèce de geek avant la lettre, c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement dans son univers, assez loin des contingences de la réalité, qui aime pas trop mettre les mains dans le cambouis, quoi, quelque part, qui est vraiment qui vit vraiment dans ce monde et qui va être complètement rattrapé, en fait, par la réalité et par le monde, quoi, parce que c'est quelqu'un, donc, qui est un savant, un mathématicien qui aime s'intéresser à des problèmes hyper abstraits et qui va se retrouver mélangé à des affaires d'espionnage. C'est quelqu'un qui n'aime que la vérité et qui va être obligé, en fait, de professionnellement d'être dans le mensonge toute sa vie. C'est quand même un truc assez paradoxal, quoi, une espèce de situation un peu impossible.
Est-ce que c'est ça qui fait en plus l'intérêt, cette espèce de génie renfermé un petit peu qui va avoir une importance folle ?
Ben, je pense que sans doute du fait peut-être de cet enfermement, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que pour être très fort dans des choses très abstraites comme les mathématiques, il faut effectivement avoir une tendance à pouvoir passer du temps enfermé en soi-même. Sans doute qu'il a ça, Alan Turing. Mais ça, finalement, il y a pas mal de gens qui ont ça. On a vu dans les grands mathématiciens aujourd'hui, il y a des gens comme par exemple Grégory Perelman qui a démontré un théorème, on va pas parler de ça, qui traînait depuis plusieurs siècles, un espèce de génie comme ça, un peu autiste, qui est même pas venu chercher le million de dollars de la récompense, etc. Des gens comme ça, il y en a un certain nombre. Mais il y en a peu, en fait, qui, comme Turing, ont ce côté un poil autiste et asocial, et en même temps, se retrouvent complètement plongés dans la réalité violente du monde, quoi. Parce que Turing, il s'est retrouvé plongé dans la guerre, dans cette espèce de violence liée justement au secret et au contact avec les militaires, et il en est mort, quelque part. Donc forcément, ça fait une bonne histoire.
Sylvie, même question. Qu'est-ce qui, dans le personnage, l'homme ou le scientifique, t'a intéressé au point d'écrire, de lui adresser des lettres?
Alors moi, Turing, j'ai commencé à entendre parler de lui pendant que je faisais des études en informatique. Mais bon, on entend plein de noms propres hein, quand on est dans une période où on suit des études. Donc la première fois où j'ai entendu son nom, ça doit être quand j'ai appris à programmer des automates à état fini, où on nous a parlé de machines de Turing et on nous a expliqué la manière dont il avait conçu un ruban infini de mémoire, un système avec des états et des changements d'état quand un événement arrivait. Bon, c'est des processus qu'on pouvait programmer. C'était pas particulièrement fascinant encore. Et puis après, je me suis lancée dans une thèse sur le traitement automatique des langues, où quand même on avait dans l'idée d'essayer de dégager le sens d'un texte, de quoi il parlait, des questions qui sont... on ne sait pas si on les résoudra vraiment un jour, mais c'est toujours un sujet de recherche d'actualité. Et à cette époque-là, j'ai commencé à entendre parler du test de Turing. Alors, le test de Turing, j'imagine que vous connaissez, c'est... Alors, on le présente souvent sous une forme assez simplifiée. Souvent, on dit, le jour où une machine arrivera à tromper un être humain pendant suffisamment longtemps, et qu'il arrivera à lui faire croire qu'il est un humain au vu du dialogue qui sera échangé avec lui, la machine aura passé le test de Turing. En fait... Je sais pas, on en parlera peut-être après, mais le test proposé par Turing est un petit peu plus sophistiqué et plus développé, mais ça reste basé autour de l'idée de duper un être humain. Ce qui est une approche très intéressante en termes de définition de l'intelligence, qui est presque provocante, parce que c'est la capacité à duper, finalement, qu'on va juger étant le meilleur critère, et pas la compétence. Et... D'habitude, quand on parle de mesure de l'intelligence, on raisonne tout de suite en termes de performance ou de compétence. Ça paraît intuitivement simple. Quand on dit quand on aura une machine qui saura jouer aux échecs, c'est qu'elle sera intelligente, on raisonne compétence et performance. Et en fait, cette autre manière qu'on peut imaginer n'est pas performante. Et puis, tu me dis, quand j'ai plein de trucs à dire, donc tu m'arrêteras quand j'en aurai trop dit. Dans le domaine de l'informatique, qui est celui que je connais le mieux, on croise un certain nombre de personnages complètement fascinants. Après coup, je me suis aperçue qu'ils avaient eu des destins croisés, entremêlés. Il y a Georges Boulle, par exemple. L'algèbre de Boulle, ça vous dit sûrement quelque chose, puisque c'est ce qui est à la base de tous les processeurs, de toutes les unités qui effectuent des opérations de base avec des portes logiques. Mais lui, il a inventé ça à une époque où les ordinateurs, les portes logiques et les processeurs n'existaient pas. Il a juste inventé une forme de logique formelle, à cheval entre la philosophie, les théories du raisonnement et les mathématiques pures et le calcul algébrique, qui est basée sur des zéros et des 1. Et tout le monde trouvait ça idiot, absurde, et pourquoi se casser la tête à développer tout un système formel autour de ces bases saugrenues? Il l'a fait et ça a été une des étapes essentielles. Et puis après, il y a eu des gens comme Russell, Frege, Wittgenstein qui ont travaillé aussi sur la logique formelle, mais avec même des ouvertures vers la métaphysique, le Tractacus. Bon, on va pas en parler là, mais il y a plein de gens fascinants. Moi, le dernier qui me fascine, c'est Code, l'algèbre de Code qui est à la base des systèmes SQL, les bases de données relationnelles actuelles qu'on utilise partout. Donc Turing, déjà, en tant qu'esprit et scientifique, est un type génial. Après, il y a ce dont parlait Denis et sa vie.
Une autre question, quand tu as fait ces lettres, qu'est-ce que tu as mis dans ces lettres? Quels sont un petit peu sur le travail d'écrivain, là, l'auteur rencontre le scientifique, qu'est-ce que tu lui as dit?
Alors d'abord, quand Jean-Marc Lévy-Leblanc m'a dit Thierry Marchès a une collection dont le principe est d'écrire à des gens qui sont morts, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. Et après, quand il m'a dit, est-ce que tu as envie, toi, d'écrire une lettre à Alan Turing? Je me suis dit, c'est génial, on ne m'avait jamais fait une proposition aussi géniale. Et puis, tout de suite après, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, oui, mais moi, pour communiquer, j'ai besoin de savoir à qui je parle. Donc, je me suis dit, dans quelle situation de communication est-ce que je suis ? On me demande d'écrire à quelqu'un qui est mort. Mais si j'écris une lettre, il y a probablement un présupposé selon lequel il la reçoit. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de lui écrire. S'il reçoit ma lettre, alors déjà, il faut réfléchir à aux circonstances et la manière dans lesquelles il peut la recevoir. Et puis, qu'est-ce que je peux lui dire ? Est-ce que je suis en train d'écrire à un Alan Turing tout jeune, à un homme en pleine maturité ou à un homme qui est mort depuis un certain temps ? Si je lui révèle des choses sur son avenir, quelles conséquences ça peut avoir sur notre présent ? Je me suis trouvée avec tout un tas de paradoxes logiques, quelle que soit la manière dont on prenait la chose. Et là où c'est devenu jouissif, et moi je me suis régalée, c'est que j'ai essayé d'appliquer la démarche suggéré par Alan Turing pour résoudre les paradoxes logiques dans lesquels je me trouvais en imaginant que j'étais en train de lui écrire. Par exemple, juste pour en citer un, comme on peut jouer avec le cadre logique qu'il nous a légué et proposé, dans le test de Turing, en fait, il propose une expérimentation dans laquelle il faut qu'il y ait au moins 30% des spectateurs qui croient avoir affaire à un être humain pour que la machine ait passé et réussi le test. C'est pas sur une personne que ça se joue et son jugement. Ben moi, dans ma lettre, je suis arrivée à la conclusion que l'éditeur allait proposer à tout un tas d'auteurs d'écrire des lettres à Alan Turing et que si 30% d'entre eux acceptaient de le faire et donc croyaient à la possibilité d'écrire vers quelqu'un qui était mort dans le passé, ben c'est que ça avait un sens.
On va revenir sur le documentaire. Au moment où Alan Turing va être engagé donc pour ce code Enigma, on est à quel moment, il a quelle période de sa vie ? Et il est à quelle considération ? C'est quelqu'un de reconnu ou encore quelqu'un de modeste ?
Alors, quand Turing commence à travailler sur les codes, on est en fait on est avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens d'ailleurs parmi vous qui ont vu The Imitation Game, qui est le film sur Turing. Je vois des hochements de tête, donc je subodore qu'un certain nombre de gens l'ont vu. Par rapport à la biographie d'Alan Turing, tout est faux quand même. Il faut quand même le dire, c'est qu'il y a à peu près pas un truc qui correspond à la réalité. Donc dans le film, on le voit qu'il découvre d'un seul coup cet univers là par surprise, alors que la guerre est commencée, etc. C'est pas du tout le cas. En fait, il a commencé à travailler sur les codes avant la guerre. Il a développé des machines de cryptographie, même une machine qu'il a même commencé à construire avant la guerre. Et puis surtout, bien avant la guerre, alors je ne sais plus les dates, je crois qu'on on doit être vers quoi, 33, l'article sur le... Il a publié donc un très grand article qui propose l'idée de la machine de Turing, donc pour résoudre un problème de logique. Et ça, c'est en fait un jeune scientifique qui a publié un article qui a eu pas mal de retentissement. Et donc il a une petite notoriété académique en fait. La réalité est plus subtile que les films hollywoodiens, c'est que c'est pas un génie qui débarque là-dessus par hasard dans une espèce de bureaucratie stupide et bornée comme on le voit dans le film américain. Mais au contraire, justement, et c'est là où il y a eu vraiment une force et une intelligence du système anglais, c'est que dès avant la guerre, il y a tout un programme pour recruter des scientifiques, pour faire travailler des scientifiques sur ces questions. Et donc Turing est déjà là, est déjà sur les questions de cryptographie dès avant la guerre. Et donc effectivement, quand la guerre est commencée et quand les problèmes qui ont commencé à être envisagés et organisés en fait par les services secrets britanniques, il est déjà très bien repéré et il arrive très normalement finalement pour continuer ce travail d'une façon plus intensive à un endroit en fait où on a regroupé tous les services de qui travaillent sur la cryptographie, qui est un endroit dans la grande banlieue de Londres qui s'appelle Bletchley Park et qui est devenu maintenant, je le dis au passage, si on passe par là, c'est devenu un musée qui est assez intéressant à visiter parce qu'il y a plein de traces, de témoignages de cette époque et puis de plus généralement de tout l'univers des codes. C'est un endroit assez, assez fascinant.
Dans le film, on le voit vraiment imposer presque de nouvelles méthodes. à une équipe qui, au départ, ne le comprend pas du tout. Ça aussi, c'est la réalité ou pas du tout, hein?
Non. Non, c'est pas la réalité non plus.
Démontons Imitation Game.
C'est-à-dire que, enfin, voilà, le but. Après, bon, il y a une nécessité de simplifier quand on fait de la fiction. Mais c'est vrai que cette image de génie solitaire et persécuté par une bureaucratie idiote, elle est juste pas vraie. Turing, alors, on peut parler aussi de ce qu'il amène de vraiment important et de parce que bien sûr c'est quelqu'un de très important, et sur cette histoire de code il amène des idées nouvelles et il change le cours des choses, mais il le fait pas du tout seul. C'est vraiment une équipe, il y a 6000 personnes qui travaillent à Bletchley Park. C'est une usine de traitement de l'information qui est d'ailleurs la première du genre. Et donc toute la bureaucratie entre guillemets anglaise est génie, et en fait assez géniale. Et c'est toute cette organisation qui peut-être fait gagner 2 ans à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas simplement Alan Turing. Ça c'est pas vrai. Ça c'est les légendes qu'on aime bien se raconter parce qu'on aime avoir des héros. Mais c'est pas la réalité.
Il est embauché à quel moment exactement, et à quel moment il commence à travailler sur cette fameuse machine, casser le code Enigma?
Alors, donc, comme je disais, donc, il est embauché, en fait, il commence à travailler au milieu des années 30 sur les questions de cryptographie. Alors, ce qu'il faut peut-être raconter, alors, je ne sais pas ce que les gens connaissent de toute cette histoire. Peut-être ça va être très varié, j'imagine. Peut-être on peut raconter rapidement dans quel cadre ça se situe en fait. Très simplement, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les armées allemandes utilisent un système de code. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, donc les théoriciens militaires allemands ont eu l'idée de faire une guerre de mouvement. Ce qui n'était pas la tradition. Avant, on faisait des choses où il y avait des lignes posées, des choses comme ça. On envoyait des coursiers avec des messages, etc. Or, les Allemands, les stratèges allemands disent non, c'est pas ça qu'il faut faire, on veut une guerre de mouvement, on veut aller très vite, on veut aller avec des blindés en avant, en arrière, etc. Et donc, on va communiquer par la radio, en fait. Mais pour communiquer par la radio, comme évidemment n'importe qui peut capter des émissions radio, il y a la nécessité absolue d'avoir un système de code secret qui permette d'envoyer des messages sans que l'ennemi, évidemment, en ait connaissance. Donc, pour faire ça, pour envoyer des messages radio, en fait, ils utilisent une machine, ou plutôt une série de machines, parce qu'il y a plein de modèles, c'est tout un développement très compliqué qui commence d'ailleurs dans les années 20, en fait, c'est une longue histoire. Et donc ils utilisent une série de machines qui s'appelle globalement Enigma. C'est des machines en fait mécaniques. On a vu passer quelques images là, et puis si vous avez vu le film, vous avez vu aussi. C'est une espèce de grosse machine à écrire, et quand on tape une lettre au clavier, il y en a une autre qui s'affiche sur un petit voyant. Et donc voilà, vous tapez votre lettre, vous tapez votre message lettre par lettre, vous voyez d'autres lettres qui s'affichent, donc vous recopiez les autres lettres qui s'affichent, vous envoyez ce message donc par le morse, parce que j'ai dit radio, mais évidemment c'est des émissions en morse en fait qui sont envoyées par la radio, c'est pas du langage parlé. Et de l'autre côté, on a la même machine, et donc on tape mot par mot le message crypté qu'on reçoit, donc qui ne veut rien dire. On le tape, pof, pof, pof. On voit les petites lettres qui s'affichent. On le recopie, et là ça a un sens. Et donc voilà, il y a tout ce système allemand qui est en place. Et évidemment, on sent bien, enfin, les services secrets alliés comprennent bien qu'il y a un intérêt énorme à réussir à décrypter tout ce système-là. Donc en fait, ils vont mettre en place donc cette espèce d'usine qui au départ est une petite chose qui au fur et à mesure de la réussite du processus va devenir vraiment quelque chose d'énorme, comme je disais, 6000 personnes à la fin de la guerre, où en fait il va y avoir toute une chaîne d'abord de stations d'interception où on va donc capter les messages, les retranscrire, les envoyer à Bletchley Park avec où il y a tout un système donc d'archivage, de notation, etc. Des dizaines et après des centaines en fait de mathématiciens, de linguistes qui travaillent sur ces trucs-là, qui essayent de trouver des méthodes en fait pour casser systématiquement le code. Et puis à la fin, en plus, une fois qu'on a finalement réussi à transcrire le message, quand on y arrive, c'est pas fini, parce qu'après faut traduire l'allemand, faut comprendre ce que ça veut dire, il y a des abréviations, il y a tout un système documentaire en fait qu'il faut mettre en place pour réussir à vraiment faire usage de ces informations là et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que C'est un problème théorique, c'est de la cryptographie, mais en plus, mais c'est un problème cryptographique en temps réel. C'est-à-dire que, évidemment, réussir à transcrire les messages secrets allemands un mois ou une semaine après, bah, ça sert à rien. Donc, il faut trouver. Le but, c'est d'essayer de trouver une méthode un peu systématique qui permette de transcrire dans la journée, en fait, les messages. Et c'est là où c'est compliqué et c'est là que Turing y arrive. Je suis désolé, c'était un long préambule juste avant d'arriver à... Mais voilà, au moins, ça situe le...
On y est. Sylvie, tu avais deux, trois petites réactions.
Oui, Denis est passionné par Alan Turing. Il y a un certain nombre de gens qui le sont. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a tous une manière de raconter Alan Turing et de le comprendre. On a tous tout un tas de convictions à son sujet. Qui sont complètement contradictoires. J'ai entendu 10 portraits complètement différents d'Alan Turing par des gens qui disposaient à peu près tous des mêmes éléments. Et c'est fascinant quand on pense que il est mort en 1954, c'est pas si vieux. Moi, je suis née pas longtemps après, on s'est presque croisés. Et en si peu de temps, l'image de quelqu'un d'extrêmement complexe, intelligent, riche, et passionné, parce qu'il était tout ça, ça c'est une évidence, elle est très difficile à reconstruire. Par exemple, tu disais tout à l'heure, il n'était pas tout seul, il y avait 6000 personnes. Oui, mais au début, il s'est lancé des défis quand il a par exemple décidé de se centrer sur le déchiffrement de la communication navale qui était beaucoup plus complexe. Ben, il était un peu tout seul et puis... Au départ, il disait qu'il aimait mieux être tout seul, que ça l'énervait d'avoir expliqué tout ce qu'il faisait. Et sur les 6000 personnes, il y avait quand même essentiellement des dactylographes, des gens qui faisaient de la traduction, pour penser, pour concevoir le système, il aimait bien être tout seul. Écoute, je sais. Alors, que... Oui, enfin.
C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis par rapport au fait qu'on a 1000 portraits différents. Et c'est vrai que moi, ça m'a frappé aussi que les. Comme c'est quand même quelqu'un qui s'est pas beaucoup livré, qui a pas beaucoup écrit sur lui-même, c'est un espèce de réceptacle où on peut mettre un petit peu ce qu'on a envie d'y mettre assez facilement. Et puis après, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Évidemment, il a eu un rôle très très important, et notamment sur l'énigme navale. Après, on peut aussi voir la bouteille. Et comme quelque part, moi, je vois surtout développer le côté génie solitaire. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir aussi faire la limitation. Sur les 6000 personnes, il y a effectivement des dactylographes, mais il y a aussi plein de cryptographes. Et par exemple, on sait bien que peut-être on peut en venir ici parce que son invention principale, c'est en fait de trouver justement par rapport à cette problématique que j'évoquais, son invention principale pendant la guerre. Il y a d'autres choses. C'est d'avoir l'idée en fait qu'il faut donc une méthode systématique et que finalement se plonger dans un espèce de jeu de mots croisés à chaque fois, ça va pas marcher. Il faut un système et donc il construit une machine qui s'appelle la bombe. Mais même sur cette machine là, c'est pas une conception qu'il fait seul. Ils sont deux et il y a un autre inventeur qui a un rôle vachement important, notamment qui trouve vraiment une méthode qui fait avancer les trucs. Et ils sont vraiment deux sur la bombe, par exemple. Ça, on n'en parle jamais. Après, il y a une autre machine qui arrive, un autre système qu'Enigma, qui est encore plus complexe, encore plus difficile, ou sur lequel Turing joue un petit rôle, mais la personne principale, c'est un autre cryptographe. Et après, la personne qui construit une machine, cette fois-ci, qui s'appelle Colossus, qui va casser ce nouveau code, c'est plus Turing, c'est un autre. Donc, il y a vraiment, quand on parle de 2 ans, je pense vraiment que dire c'est Turing tout seul qui a fait cette... qui a eu cet effet-là sur la guerre, je pense que c'est une exagération. C'est-à-dire que les 2 ans, si tant est qu'on puisse prendre au sérieux cette extrapolation, c'est vraiment Bletchley Park dans son ensemble. C'est pas juste Turing. Voilà.
Et moi, j'avais envie de dire que c'est pas forcément la partie cryptologie que je trouve la plus passionnante, même si c'est celle qui historiquement a sans doute laissé le plus de traces. Parce que Alan Turing, c'est quand même un homme qui avait envie de réfléchir à 2 questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la pensée? Et il a fait ça sous un tas d'angles dont certains sont beaucoup moins connus. J'ai découvert en partie grâce à ces lettres à Alan Turing, dont certaines ont été écrites par de grands biologistes, qu'il était quelqu'un d'extrêmement important dans le domaine de la biologie. Parce qu'il a travaillé sur... sur la morphogénèse, sur l'évolution des structures cellulaires, sur le développement de la vie au sens biologie. Et il a des travaux tout à fait passionnants, mais il a travaillé aussi sur la pensée. La cryptologie, c'est pas juste mécaniser des processus de résolution de problèmes qui n'étaient accessibles qu'à des humains. Il y a sans doute moins de gens qui connaissent le fait que lorsqu'il a été démobilisé à la fin de la guerre et qu'il était tenu au secret, son génie avait quand même été repéré, donc on lui a mis à disposition un certain nombre de moyens dans l'Institut de mathématiques où il travaillait. Et il s'en est servi pour travailler sur une machine à écrire automatiquement des lettres d'amour. Ce qui a été un échec cuisant, mais c'est extraordinaire comme tentative. Et il a fait écrire des lettres d'amour à sa machine jusqu'à ce qu'on lui dise « Bon, vous êtes bien gentil, mais enfin, on vous a attribué des crédits et des moyens extraordinaires. Vous pourriez peut-être les employer à quelque chose d'un peu plus sérieux. » Et puis, il faut dire que les lettres d'amour qu'il a fait produire par sa machine sont assez rigolotes à lire aussi. Mais la démarche est extraordinaire. Et quand on dit qu'il y a des tas de manières de parler de lui, on n'a pas parlé de son aspect marathonien, sportif de très haut niveau, qui est intéressant. On n'a pas parlé de son rapport à la sexualité. Mais dans le mouvement queer, LGBT, il y a des gens qui ont une lecture de cet homme qui est tout à fait intéressante aussi, mais qui brosse un portrait tout à fait différent de d'autres qu'on peut trouver du personnage. Et même sur sa mort, la version officielle la plus répandue consiste à dire, alors les faits dont on dispose, on a trouvé à côté de lui une pomme imprégnée de cyanure et il est mort. On n'a jamais analysé, non, on a trouvé dans son corps des traces de cyanure.
Non, justement, voilà, bon, c'est la première version en fait. C'est qu'on a trouvé, on l'a trouvé mort et on a trouvé à côté de son corps sur sa table de nuit une pomme imprégnée de cyanure.
Alors là, il y a des gens qui disent il s'est suicidé. Il y a même une version un peu romantique, peut-être vraie d'ailleurs, qui dit il avait une admiration éperdue pour Blanche-Neige et les sept nains qu'il est allé voir sept fois au moins. Donc voilà, aurait-il fait un jeu de limitation d'une nature un peu particulière. Mais il y a aussi des gens qui sont convaincus que, comme il menait aussi des tas d'expérimentations, dont certaines utilisant l'arsenic, ça peut être un décès tout à fait accidentel. Et puis, il y a aussi des interprétations selon lesquelles il connaissait un certain nombre de secrets sans inspirer une totale confiance à ceux qui avaient un peu de méfiance autour et qui a peut-être eu un acte criminel. Donc, même de sa démarche jusqu'à sa mort, on peut avoir une quantité de lecture. Ça, c'est assez fascinant quand même.
Parce que, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est que vraiment le... Pardon, oui, d'accord. Le personnage ne se réduit pas du tout à la cryptographie. Il a effectivement exploré des tas de domaines différents avec une obsession sur ce qu'était la vie, ce qu'était la pensée, et spécifiquement dans son rapport avec la machine. Et c'est ça, c'est en ça que ça rejoint le thème de cette année des Utopiales, c'est que vraiment la machine a quand même été au centre de sa pensée. Au sens où, on va peut-être pas développer là, ce serait un petit peu long, mais tous ces travaux successifs, d'abord en logique formelle avant la guerre, puis sur les codes pendant la guerre, puis sur le développement de l'ordinateur après la guerre, tout ça était dans un rapport fort avec l'idée de machine en tant que concept et aussi en tant que pratique, parce que ça a été vraiment quelque part, et ça aussi c'est un aspect assez fascinant du personnage, ça a été vraiment quelque part, bon, c'est un peu une formule, mais c'est vrai que ça a été une sorte de premier geek avant que ce truc n'existe. Ça a été quelqu'un qui, dans les années, donc à la fin des années 40, a passé des nuits sur un ordinateur totalement primitif fait avec des tubes dans le transistor, a essayé effectivement de lui faire générer du texte, a essayé de lui faire jouer aux échecs et à être dans une espèce d'interaction avec la machine, chose qui n'existait absolument pas. Et d'ailleurs, il s'est fait foutre dehors, effectivement, de de l'institut à Manchester où il était, parce que finalement à un moment tout ça c'est l'informatique en développement, c'était vraiment les tout débuts, c'était une affaire de militaires, c'était une affaire éventuellement peut-être de statisticiens et des gens qui voulaient faire jouer aux échecs avec une machine qui était des millions de livres de développement, juste c'était pas possible effectivement, et il a été le premier donc je pense à essayer de se plonger dans un espèce de corps à corps avec la machine. Et effectivement, ça, je pense que le suivant dans l'histoire de l'informatique, je pense qu'il faut attendre, je sais pas, 20 ou 30 ans. C'est en ça qu'il y a un truc aussi un petit peu exceptionnel dans cette trajectoire quand même bizarre.
Sylvie ?
Oui, j'étais juste en train de me dire que le décrire comme un geek, ça colle pas avec le marathonien de très haut niveau. Donc, quelle que soit l'étiquette qu'on choisit de mettre en avant, elle est toujours insatisfaisante.
Pourquoi ? Parce qu'on peut pas être, on peut pas être geek marathonien.
Bah, c'est inhabituel, disons, dans les clichés véhiculés par le terme. Désolée, hein, Baz. Si j'offusque quelqu'un.
S'il y a des geeks qui font du marathon ici,
oui,
ne le prenez pas pour
c'est
vous.
Tout à fait compatible.
Dans leur rapport à la machine, est-ce que c'est à chaque fois le même mouvement ? Est-ce que c'est l'objectif de l'automatisation de la pensée, puisqu'on a dit qu'ils travaillaient sur la pensée ? Est-ce que c'est au contraire la mécanisation de tâches répétitives ? Quel est le mouvement qui l'anime, s'il y en a un unique sur le rapport à la machine ?
Je pense qu'il y a une interrogation assez existentielle sur ce que c'est la vie et ce que c'est la pensée. Et évidemment, quand on est mathématicien et qu'on a une interrogation comme ça sur le vivant en général, sur la pensée, on se demande, très vite vient la question de l'algorithme, du déterminisme. Qu'est-ce que dans notre processus de pensée, qu'est-ce qui dans ce processus appartient au domaine du déterminisme, qu'est-ce qui n'y appartient pas? Donc, on peut explorer le domaine du déterminisme en essayant de fabriquer des machines ou des algorithmes, parce que finalement, c'est la même chose. Un algorithme, c'est une machine abstraite. Une machine, c'est un algorithme réifié. Jusqu'où on peut aller dans la reconstruction ou dans la simulation, ce qui sont deux idées un peu différentes, de la pensée par la machine ou par l'algorithme. Et donc c'est vraiment ça qui est au cœur de, à la fois de son article de logique formelle du début des années 30 sur la machine de Turing, je vais pas développer, c'est aussi ça qui est un petit peu dans son travail sur les codes, parce que quand il arrive en gros, parce qu'il y avait déjà des machines à décrypter polonaises, et donc tout ça est toujours plus compliqué. Mais en gros, quand même, il y a des cryptographes qui sont des gens très intelligents qui travaillent avec des crayons et du papier et qui arrivent à décoder des messages, etc. Mais lui va réussir donc va en fait les remplacer, va leur piquer leur job en faisant une machine qui fait la chose à leur place. Et puis évidemment, après la guerre, dans son travail sur l'ordinateur et puis sur l'intelligence artificielle, il y a cette même idée, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller, jusqu'où qu'est-ce qui résiste chez l'humain qu'on n'arrive pas à réduire à la machine et à l'algorithme. Mais en même temps, c'est un questionnement, c'est-à-dire que souvent les gens qui sont disons qui pensent, qui partagent ce qu'on appelle le programme de l'IA forte, en fait le fait de dire que vraiment il y a finalement au fond il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'au fond c'est qu'une question de développement, de complexité, et la machine va être équivalente à l'humain. Turing, c'est assez difficile de définir sa position par rapport à ça. Certes, il rêve de machine pensante, il est dans une espèce de projection comme ça, mais la position dans ce qu'il écrit de scientifique, c'est un peu plus ambigu que ça. C'est-à-dire qu'il est plus dans l'idée, en tout cas dans son article, dans le fameux article sur le test de Turing, il est plus dans l'idée que finalement tout ça est très compliqué et que ben voilà, on va trouver une espèce de critère qui va nous permettre de dire bon, il se passe quelque chose et la machine fait le job quoi. Mais c'est pas si évident qu'il soit réductionniste quoi, c'est-à-dire qu'il pense que vraiment la machine va jusqu'à notre stade humain.
Moi, j'ai même l'impression absolue qu'il n'est pas du tout machiniste au sens réductionniste. Au moment, la logique formelle commence à être assez développée au moment où il entame ses travaux. La logique formelle, en fait, c'est, en gros, il y a des bases de connaissances et puis des mécanismes de raisonnement qui permettent de produire de nouvelles connaissances par des processus plus ou moins certains, déductifs, inductifs. Et il sait que tout ça existe, mais lui, il a une question beaucoup plus vaste. On en revient à qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la pensée. Et il me semble d'abord que certains de ces articles scientifiques extrêmement intéressants contiennent peut-être des traces d'humour et de second degré. C'est-à-dire que je pense qu'il adore prendre des positions un peu paradoxales et provocatrices dans ce qu'il écrit. Donc quand il développe sa logique machiniste, on peut toujours se demander dans quelle mesure il n'est pas en train de travailler dans une logique de l'absurde pour en montrer les limites. D'autre part, il a quand même, s'il a autant travaillé sur la biologie, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est posé la question de la limite, où elle se trouve et d'où provient-elle. Est-ce que c'est de notre substrat biologique ou d'autre chose? Et il a travaillé aussi sur la question du langage. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont posés à la fois la question du raisonnement, la question du langage permettant de communiquer avec l'humain, la question du substrat biologique dans lequel ça se développe, pour se demander... Il se posait aussi des questionnements métaphysiques. Il s'est demandé à une certaine période de sa vie ce qu'était l'âme, comment ça pouvait s'exprimer, et pas forcément avec le projet de le simuler avec des machines ou de le reconstruire. Mais il se posait vraiment des questions essentielles sur ce qu'était l'humain, je pense.
Est-ce qu'on peut s'arrêter deux minutes justement sur le fameux test de Turing? Dans quelles conditions il le met en place, tout du moins il le formalise? et comment se...
Je disais, on ne va pas le raconter de la même façon.
Ouais, chacun va raconter sa version. Et qu'est-ce qui fait que ce test dure tellement, même jusqu'encore aujourd'hui, c'est une référence?
Je ne sais pas si c'est tant que ça une référence encore aujourd'hui, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est jusqu'à quel point c'est une référence encore aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que ça existe encore, puisqu'il y a le Loebner Prize, donc qui est quelque chose qui met en scène ce texte de Turing qui se passe tous les ans et qui est une sorte de compétition entre ordinateurs sur le modèle du test de Turing. Bon, pour le raconter, donc ce test de Turing, c'est-à-dire aussi il y a plusieurs versions, du simple au compliqué. En fait, bon, dans l'article, donc je le raconte à ma façon. Donc dans l'article qui date de, je crois, 50 ou 51, je ne sais plus bien, qui s'appelle « Can machines think ?» Il dit, bon voilà, je propose de poser la question, est-ce que les machines peuvent penser ? Cette question est trop compliquée, c'est pas exprimé en termes très clairs. On ne sait pas bien ce que c'est exactement une machine, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire penser, c'est un bordel. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus, qu'on puisse un peu plus attraper, je propose de traduire cette question avec un autre processus, avec en fait un test. Et là, il commence à raconter en fait un jeu où on a deux personnes séparées par un mur et qui communiquent par du texte. Et c'est ce qu'il appelle le jeu de limitation. Et donc le jeu, en fait, dans un premier temps, il dit, voilà, on pourrait imaginer ce jeu où il y a de l'autre côté du mur, il y a un juge et donc il y a un candidat. Le juge essaye de déterminer si de l'autre côté du mur, il a affaire à un homme ou à une femme. Bon, voilà, ok, il peut lui poser des questions, essayer de voir, de repérer des choses qui lui feraient penser que, tiens, je suis plus en train de parler à un homme ou plus en train de parler à une femme. Il dit, bon ben voilà, vous avez cet exemple-là, et maintenant on va imaginer un autre test, c'est qu'on fait pareil, mais au lieu d'avoir un homme et une femme, on a un humain et une machine. Donc est-ce que on va pouvoir, en un temps limité, déterminer si on est en train d'avoir une conversation avec un humain ou une machine? Donc c'est ça le test de Turing. Après, comme il est un petit peu obsessionnel, il va plus loin, il dit oui, alors si 30% des gens se font avoir en un temps de 5 minutes, comme ça, etc., on pourra dire que quelque chose se passe, etc. Bon, après, ça c'est un petit peu du détail, mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est cette idée finalement que effectivement on est dans un simulacre, c'est-à-dire c'est pas effectivement une question de compétence, c'est une question de pouvoir de pouvoir faire semblant. C'est une sorte de simplification de la question de l'intelligence. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, à aucun moment, il ne dit si une machine passe le test de Turing, ça veut dire qu'elle est intelligente et qu'elle est consciente. Il dit pas du tout ça. Il dit c'est que en gros on aura à obtenir un résultat et puis finalement pour les questions qu'on se pose à ce stade-là, parce qu'il est bien conscient que tout ça c'est loin dans le futur. Bon bah déjà c'est pas mal. Voilà, donc il est très modeste en fait dans sa démarche. Il dit un truc, il dit voilà, on peut déjà se poser la question comme ça, c'est plus simple de la résoudre et voyons ce que ça donne quoi.
La version de Sylvie.
alors bon, l'expérience elle-même, il n'est pas très clair de savoir si elle a été proposée par Turing ou si elle existait avant. Moi j'ai cru comprendre, mais là je m'avance pas trop, que ce jeu de limitation permettant d'essayer d'ébaucher des hypothèses sur un homme ou une femme, c'est pas forcément lui qui l'a inventé. Donc un spectateur, dans deux pièces différentes, il y a d'un côté un homme, de l'autre côté une femme. Ils ont pour mission, tous les deux, de se faire passer pour une femme dans la discussion. Et en gros, le spectateur, après avoir mené les deux dialogues en parallèle, doit dire l'homme, c'est celui-là, et il choisit un des deux. Mais les deux ont pour mission de se faire passer pour une femme. Ça, c'est le jeu de base. Donc, évidemment, il transpose ça et imagine cette situation avec une intelligence artificielle d'un côté et un être humain de l'autre, qui ont tous les deux pour mission de se faire passer pour un être humain. Mais moi, ce qui me semble la limite de cette expérience, et qui après a été tournée de plein de façons dans la manière dont on l'a exploitée par la suite, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve le spectateur. Est-ce qu'on lui énonce des règles claires? Est-ce qu'on lui dit, attention, en face, c'est pas forcément un être humain? Parce que il y a un certain nombre de machines qui ont pu tromper, des machines très simples, qui en fait à la base n'était constituée que de quelques lignes de code. Il y a la célèbre machine Elisa dont vous avez peut-être entendu parler, qui était une machine permettant de simuler une ébauche de dialogue avec un psychanalyste qui reprenait quelques éléments de ce que vous lui disiez pour les renvoyer sous une forme interrogative. Vous me parlez de ceci, est-ce que vous pouvez approfondir? Et qui, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, partait sur le père, la mère, quelques éléments de base qui relançaient un dialogue et ne faisaient que poser des questions. Cette machine a leurré un certain nombre de gens qui avaient envie de parler, c'est un peu le principe d'une psychanalyste de toute façon, et qui ont pu avoir des discussions suffisamment longues et qui sont sortis satisfaits. Est-ce que la machine a passé le test de Turing pour autant? Après coup, on a décidé que non. Parce que les personnes qui dialoguaient avec cette machine n'étaient pas en train ne se posaient pas de questions particulières sur l'humanité de leur interlocuteur. Les situations actuelles d'expérimentation sont quand même extrêmement contraintes. D'abord, on ne discute qu'en anglais, et avec des locuteurs dont la langue naturelle n'est pas toujours l'anglais. Donc, pour saisir les subtilités du dialogue, ils ne sont pas toujours dans une position optimale. En plus, la durée du dialogue est extrêmement courte. Ça se passe sur quelques minutes, en général 3-4 minutes. Et quand on est chercheur, la grande difficulté actuellement, je fais des raccourcis, mais la grande difficulté, c'est d'avoir des financements. Pour avoir des financements, il faut avoir des appels d'offres et de la visibilité quand on y répond. Pour ça, il faut savoir parler à des décideurs et des politiques qui ne sont pas des spécialistes du domaine. Donc, il faut des trucs où les enjeux, les conclusions sont parlantes, évoquent tout de suite quelque chose. Et le test de Turing, il est génial pour ça. C'est que n'importe qui peut comprendre le principe du test de Turing et se dire, voilà un truc qui a du sens. Et en plus, on y rajoute un petit peu d'objectivité en disant... Il y a plusieurs personnes qui vont être arbitrées et pas une personne toute seule. Et ça a tout de suite en plus une allure de scientificité, d'objectivité qui crédibilise un peu la démarche. Mais pour moi, je crois que les chercheurs en IA savent que ça fait partie d'une stratégie de visibilité, de pédagogie et peut-être même de marketing.
Denis ?
Oui, ben c'était moi. Je voulais aussi parler de ça d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des progrès de l'intelligence artificielle. Il y a toujours ce discours. En fait, depuis les débuts de l'intelligence artificielle dans les années 40, il y a ce discours comme ça, ultra optimiste des scientifiques qui disent bon, on en a pour 10-15 ans, hein, mais là, vous allez voir, là, ça y est, on va y être là. Et en fait, c'est évidemment plus compliqué que ça. Et donc, très régulièrement, on dit, ouais, ça y est, on passe le test de Turing. La dernière fois, je sais pas si vous avez entendu parler de, c'est donc un programme ukrainien qui s'appelle, dont l'avatar s'appelle Eugène Goussman. Et donc, effectivement, alors, ils ont dit, on a passé le test de Turing, mais dans des conditions, en fait, qui sont effectivement pas très claires, en simulant quelqu'un, donc, dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, donc, avec des tas de limitations qui font que, en gros, bah, on peut dire que non, quand même, c'est le test de Turing réel, enfin s'il a un sens, il n'est toujours pas, non seulement il n'a pas été passé par des machines, mais il n'est pas à portée des machines et des logiciels actuels. Et effectivement, c'est rigolo de voir que Elisa, c'est un programme extrêmement simple. Moi-même, je l'ai tapé en basique sur mon Apple II. Donc c'est dire que c'est que quelques, je sais pas, c'est 100 lignes, 150 lignes, quelque chose comme
3 pages de Snowball.
Voilà,
je crois.
C'est rien. Donc c'est effectivement quelque chose de très simple qui se contente de rebondir, de reprendre vos phrases à l'envers. Genre, s'il y a mère ou père dans la phrase, il reprend, il dit parlez-moi de votre père, parlez-moi de votre mère. Il reprend des choses, vous dites je me sens un peu bizarre, et il demande
pourquoi bizarre.
Voilà, donc c'est extrêmement simple. C'est vraiment quelque chose de très basique. C'est un petit automate très très bête. Et à l'époque, dans les années 60, c'est vrai que ça pouvait suffire pour tromper les gens pendant un certain temps. Donc finalement, le test de Turing, la question, c'est pas seulement sur l'ordinateur, la question, elle est aussi beaucoup sur nous-mêmes, sur qu'est-ce que pour nous, à quoi est-ce que nous-mêmes on reconnaît quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence et de la compréhension du langage.
Je peux témoigner d'une anecdote personnelle. Je me suis trouvée encore en liaison avec le chat du service après-vente de Orange il n'y a pas longtemps. J'avais des soucis avec ma Livebox. Je ne souhaite ça à personne. Donc, nous avons entamé un dialogue dans lequel j'ai commencé à exposer quelques éléments de mon problème liés à mon décodeur. Etc. Et j'ai eu en face un interlocuteur qui m'a demandé « Êtes-vous actuellement dans l'appartement où se trouve la Livebox ?» Bon, je lui ai dit « Oui ». J'ai complété un petit peu mon explication. Le problème se situe sur mon deuxième décodeur. Et la personne m'a demandé, je ne sais plus, visiblement, elle me déroulait un dialogue qui correspondait à une procédure, mais dont la forme était tellement figée qu'au bout de 4 ou 5 échanges où mes répliques n'étaient absolument pas prises en compte, je me suis dit, comment je vais faire pour savoir si j'ai affaire à un programme automatique avant qu'on m'aiguille vers l'interlocuteur humain ou si je suis déjà face à un interlocuteur humain. J'arrivais pas à le savoir. Je lui ai dit une énorme bêtise pour voir comment ça allait réagir. Une énorme bêtise, non. En gros, je lui ai demandé si j'étais en train de discuter avec une machine et que je m'interrogeais sur son humanité. Eh bien, je peux vous dire que il y a eu une ébauche de réaction en face. La personne vous donne un prénom, mais après tout, une machine peut très bien vous fournir un prénom aussi, ça vous avance pas à grand-chose. Et qu'elle m'a convaincu à 80% qu'elle était un être humain. Mais je dirais pas à 100%. Parce qu'elle était probablement tenue elle était tenue de respecter un protocole de dialogue dans la mesure où toute la conversation par chat est enregistrée. Et que si elle était rentrée dans un jeu ou si elle avait vraiment bavardé avec moi comme le fait normalement un être humain, je pense qu'on lui aurait reproché. Donc on est actuellement dans des situations où pour un certain nombre de métiers, on impose aux humains de se comporter comme des machines. Ce qui ne simplifie pas la différenciation que nous pourrons avoir à faire.
Il nous reste une dizaine de minutes, il y a encore plein de questions à aborder. Mais est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui. Je crois que c'est de l'enthousiasme.
Bonjour, voilà, c'est sur le test de Turing, justement. Il y a ce film Ex Machina, où le principe, c'est un jeune homme qui doit faire, sous le test de Turing, doit essayer de déterminer si l'intelligence artificielle qu'il a en face de lui est dotée d'une conscience ou pas. Alors, ma question est double. Oui, parce qu'en plus, il tombe amoureux de cette intelligence artificielle. La question est double. Un, comment est-ce qu'on peut faire passer un test de Turing à une intelligence artificielle quand on sait que ça en est une? Et deux, quelle est la part de l'émotion et des sentiments dans le test de Turing? J'espère que c'est pas trop compliqué ce que je demande.
La part de l'émotion et du ressenti, c'est la question essentielle, mais reste à savoir si on se la pose du côté du spectateur ou du côté de l'IA. Et à mon avis, de toute façon, et moi personnellement, je suis pas enthousiasmée par ce film Ex Machina, qui est extrêmement romantique, qui est probablement intéressant dans sa vision des êtres humains et de leurs réactions. C'est aussi mon attitude vis-à-vis du film Her. Je trouve qu'il parle très bien des êtres humains, mais qu'il parle pas forcément très bien des futures éventuelles intelligences artificielles. En tout cas, il exprime très bien l'émotion et le ressenti de la machine. Il y aura des tables rondes hein, sur ces thèmes-là, ici, sur l'empathie avec la machine. Mais après, elle ne dit rien sur l'émotion de l'IA et on ne sait pas. Si on cherche des traces d'humanité, c'est pas du côté de l'humain, en principe. Elle devrait y être. Donc, voilà la question. On n'a pas beaucoup progressé dessus.
Alors, sur la première question, comment on peut faire passer un test de Turing à une intelligence artificielle? Quand on sait que c'en est une, le test est déjà fait. Puisque le but du test, c'est de savoir si on parle à une intelligence artificielle ou à un humain. Donc, la question ne se pose pas en ces termes. Elle est déjà répondue avant de commencer.
Sauf si on pose la question, a-t-elle acquis une conscience?
Non, mais c'est pas l'objet du test de Turing. C'est pas du tout l'objet du test de Turing. Ça, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Le test de Turing, il se situe vraiment en deçà de cette question-là. Après, sur la question des sentiments, c'est toujours là-dessus, c'est toujours comme ça qu'on met en scène le test de Turing en disant sur l'empathie, sur les sentiments, la machine va pas y arriver, etc. Et c'est vrai que Turing lui-même, quand il écrit cet article, les questions qu'il évoque, parce qu'il donne des exemples de questions, elles concernent écrire un poème, résoudre un problème d'échec. Donc effectivement, il est pas sur une logique émotionnelle, mais ça correspondait peut-être pas à sa façon de penser, à son caractère, mais il est bien évident que à travers les questions qu'on va poser dans un test de Turing, on va se servir de ça en fait pour essayer de reconnaître s'il y a de l'humour, s'il y a de l'émotion, s'il y a toutes ces choses un peu plus compliquées qui sont les marqueurs pour nous de notre intelligence. Mais il est bien évident que si une machine, un logiciel arrive à passer vraiment le test de Turing, ça veut dire qu'il aura réussi à acquérir dans sa base de connaissances, de processus, quelque chose d'équivalent, chose qui ressemblera, puisque c'est ça l'enjeu, c'est de se dire est-ce que finalement avec des moyens mécaniques, on peut au moins simuler cette chose évidemment plus compliquée que de résoudre un problème d'échec qui est la simple conversation normale entre humains. Et parce que dans ça, évidemment, il y a de l'émotion, évidemment, il y a de l'humour, évidemment, il y a toutes ces choses qui n'appartiennent pas à un domaine formel. Je crois que c'est clair même pour Turing au début que ces choses-là qui appartiennent à la conscience humaine et pas à la machine, Elles sont peut-être à portée, et c'est ça justement l'objet. C'est est-ce qu'on peut les simuler? Est-ce qu'on peut les simuler avec du mécanique?
Est-ce qu'il y a une autre question à poser à nos invités sur Turing?
Oui.
Bonjour. Alors moi, ce serait par rapport au film Imitation Game. On voit à un moment qu'ils décident alors qu'ils ont décodé le code de laisser un événement se passer, un bombardement qui a lieu. Est-ce que c'est la vérité, ça, encore une fois, ou est-ce que c'est romancé?
Alors, le film, le côté romantique du film Imitation Game, qui est probablement, enfin, Denis nous dira, est-ce qu'il a eu à prendre des décisions de type éthique autour d'une question qui s'est posée, mais pas forcément à lui, sur le principe, il ne faut pas que les Allemands se rendent compte du fait que leur code a été déchiffré, sinon ils vont changer de système de cryptage bien trop vite, pour tirer le maximum de bénéfices de notre capacité à décrypter le code Enigma, il faut que les Allemands continuent à croire qu'ils envoient des messages qui restent secrets. Donc il ne faut pas qu'on soit trop bon et qu'on anticipe trop leurs manœuvres, leurs déplacements. Donc il faut sacrifier un certain nombre de vies humaines en sachant qu'on les sacrifie. Mais il est assez évident, il me semble, que vu l'organisation du commandement militaire et des décisions stratégiques, Alan Turing et les 6000 personnes qui étaient autour décryptaient les messages et les renvoyaient en haut lieu et qui n'ont jamais, en aucune manière, été impliquées dans les décisions qui ont suivi de contrecarrer tel ou tel mouvement de troupes ou au contraire de laisser faire en sacrifiant un bateau, en sacrifiant... Non, ils n'ont pas eu ce type de choix moral à faire.
Oui, bien évidemment... Enfin, bien évidemment, je ne sais pas si c'est évident, et c'est justement ça que je reproche un peu au film. En fait, évidemment, non, bien sûr que non. Turing et même l'ensemble de Bletchley Park étaient juste sur le décryptage et ces questions qui ont pu se poser. Et c'est vrai que, par exemple, pour intervenir en fonction d'informations obtenues grâce au décryptage des codes, on pouvait, par exemple, simuler des reconnaissances aériennes qui servaient justement à leurrer les Allemands en leur disant « Ah oui, c'est à cause de ça que peut-être ils sont intervenus. » Mais ça se passait absolument pas au niveau de Turing. Dans le film, on le voit avec un espèce de grand tableau avec les navires qui passent sur l'Atlantique. Donc cet endroit, il existe. C'est le commandement central des Alliés pour la région de l'Atlantique. C'est un autre endroit, c'est dans une autre ville, c'est à Liverpool. Il y a des centaines de gens qui travaillent là-bas et Turing n'a jamais vu cet endroit. Donc tout ça est purement imaginaire. C'est-à-dire c'est vraiment de la fiction. Ça fait une bonne histoire, mais encore une fois, c'est très, 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 très loin de la réalité historique, bien sûr.
Une dernière question, il nous reste 2 minutes.
Bonjour. J'aurais voulu savoir, enfin, si vous pouviez me confirmer que la programmation, enfin, les travaux de Turing ont été utilisés dans la PNL plus tard, la programmation neurolinguistique, qui me semble, en fait, a repris ses travaux. Justement, il y a le mot programmation dedans, et enfin, qui est aujourd'hui utilisé dans les entreprises pour un peu reprogrammer les gens pour qu'ils soient heureux au travail. C'est-à-dire que s'ils ont un problème au travail, c'est un problème de vision, quoi, de regard, simplement. Et je voudrais savoir si vous savez quelle implication il y a eu ou pas par rapport à ça.
Alors, donc, il est question de la programmation neurolinguistique, qui est une forme de communication entre êtres humains dans lesquels on est censé... en gros, l'idée est d'agir sur la réaction et la compréhension de l'autre... et qui, lorsqu'on va dans un sens extrême et mal perçu, peut être interprété comme des techniques de manipulation, mais peut être aussi interprété d'une manière positive. Le terme de programmation y encourage, puisqu'il donne l'idée, un cadre selon lequel on ferait fonctionner l'autre en lui faisant réagir à un certain nombre de commandes. Maintenant, à ma connaissance, Turing, je n'ai jamais vu de référence à des réflexions qu'il aurait eues dans le domaine, mais en même temps il s'intéresse à la pensée et à la communication. S'il fait écrire des lettres d'amour à des machines, il est dans des questionnements qui auraient peut-être pu englober ça. Donc c'est à la fois pas idiot et pas directement lié à lui, hein, mais dans la même sphère de questionnement.
Non, et puis il faut bien comprendre que Turing, là où il intervient dans l'histoire, on est vraiment au balbutiement de l'informatique. Donc l'idée qu'on ait pu utiliser des choses de son travail dans une doctrine psychologique, ça me paraît un peu difficile à imaginer, j'en sais rien à vrai dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui n'était pas du côté du conditionnement, parce que lui, comme employé modèle, franchement, on faisait mieux, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a été qui avait une liberté de pensée, d'action et un refus quand même des contraintes de système qui était assez... qui était assez fortement ancré en lui. Donc ça me paraît pas en tout cas être un bon sujet pour la PNL.
Voilà, merci, on arrive à la fin de cette table ronde. Merci, vous avez été super attentifs, vous avez passé le test. Vous pouvez les retrouver tout de suite en dédicace, puis restez ici, on a une autre conférence sur la BD et la BD Tech des Savoirs. Merci à tous.
Et puis il y a le film donc qui,